Bon après-midi tout le monde. Bonne année. Avec tous les prédicateurs ajustent leur lutrin avant de commencer. Je vais faire la même affaire. Il paraît que le réformateur John Knox, toute sa vie, a tremblé lorsqu'il approchait la chaire. Puis j'espère que Dieu me fera la grâce qu'il lui a pas faite de pouvoir lui donner une certaine assurance dans l'exposition de sa parole. Je suis aussi très heureux cet après-midi de pouvoir prêcher. Évidemment, on m'avait invité plusieurs fois depuis le début de mes études et j'avais systématiquement refusé. Et devant le grand besoin qu'il y a, j'ai finalement accepté de pouvoir vous exposer cet après-midi ma première prédication. Et comme il l'a dit, ça fait maintenant 2 ans que je suis étudiant en théologie. Et cet après-midi, c'est un peu comme la concrétisation du pourquoi que j'ai entamé ces études-là. C'est de pouvoir servir cette église que j'ai vue grandir, que j'ai vue être fondée, et que pour laquelle j'éprouve beaucoup d'amour, que j'aime beaucoup. Et c'est un projet qui est fantastique que de pouvoir participer à la construction d'une église. Et j'espère pouvoir dévouer ma vie à ce projet qui est grandiose. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous entretenir sur un texte de l'Épître de Paul aux Galates, au 4e chapitre. C'est un texte qui s'inscrit dans une belle continuité avec les enseignements que l'on a reçus dans l'Évangile de Jean, les enseignements qui font l'objet des prédications de mon père. On se rappellera au chapitre 8 que les autorités religieuses viennent voir Jésus et qu'ils ont une certaine prétention spirituelle d'appartenir à la descendance d'Abraham. Et Jésus vient casser cette prétention en développant la question des deux paternités. Le fait qu'il y a dans la descendance d'Abraham des fils de Dieu et aussi des fils du diable. Et Jésus développe à partir principalement de Genèse 3.15 cette question des deux descendances. Genèse 3.15 qui nous rappelle qui est cette promesse que Dieu avait faite immédiatement après la chute qui disait essentiellement ceci. Je mettrai inimitié entre ta descendance, la descendance du serpent, et sa descendance d'Ève. Et à partir de là, toute l'histoire de la rédemption est lancée. Et on assiste à cette dualité dans l'humanité entre les élus et les réprouvés, entre ceux qui gardent l'alliance de Dieu et ceux qui la rejettent, entre le bien et le mal. Et cet enseignement de Jésus-Christ qu'on retrouve en Jean 8 vient redéfinir la question, l'identité du peuple de Dieu et de la descendance d'Abraham. Et de façon similaire dans Galates, Paul utilise justement cette idée des deux identités en Abraham pour réfuter une conception qui était celle de la justification par les œuvres. On sait... En Galatie, il y avait des gens qui enseignaient un autre évangile, un évangile qui était contraire à celui que Paul enseignait, qui était qu'on pouvait déterminer notre statut sur la base de nos propres œuvres et non pas sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et Paul, dans son argumentation, passe par la question des identités des descendances, et contrairement à Jésus qui développe la question des deux paternités, Paul développera la question des deux maternités. Et c'est intéressant de voir le jeu ici entre paternité et maternité. Et sans plus tarder, je vous inviterai à lire Galates 4, les versets 21 à 25. Après la lecture, nous allons en prière et commencer l'exposé. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont les deux alliances, l'une celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te demander l'assistance de ton esprit pour pouvoir bien saisir ces vérités que tu nous as transmises par ton apôtre Paul, et que ces vérités puissent s'incarner dans nos vies et que nous puissions les embrasser pleinement. Seigneur, donne-nous de grandir dans celle-ci, en Église, et que nous puissions vivre pleinement toutes les modalités de ton salut. Amen. Le texte que nous venons de lire présente plusieurs difficultés. J'aimerais cet après-midi développer trois points. Le premier concerne la compréhension de la loi chez Paul. C'est possiblement l'un des sujets qui a été les plus controversés dans l'histoire de l'Église, et j'aimerais m'y attarder. Le second est l'usage de la loi chez Paul. Donc, après avoir compris, avoir saisi ce qu'est la loi, Paul l'utilise, il l'exploite. Et le troisième point, c'est les implications de la loi, principalement en matière d'esclavage et de liberté. Et on verra aussi le développement de cette question dans le Nouveau Testament. Mais avant d'aborder l'usage et les implications de la loi, il est important de se demander qu'est-ce que la loi? Et il y a plusieurs explications qui ont été avancées pour saisir ce qu'est la loi. Et certains ont perçu la loi comme une simple liste de règlements et de prescriptions. Et on voit tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau que cette conception qui est strictement légaliste a été réfutée par Jésus. Hein, les pharisiens, les autorités religieuses concevaient la loi comme un ensemble de prescriptions à faire et à ne pas faire. Il y avait même chez les pharisiens la notion de « haie », mon père l'avait déjà expliqué. Par exemple, s'il y a sur un terrain des frontières à ne pas franchir, les pharisiens, pour pouvoir faire respecter cette loi-là, auraient fait une haie à l'intérieur des frontières, justement, pour s'assurer que l'on ne dépasse pas les bornes. Et évidemment, les pharisiens avaient développé des lois supplémentaires pour s'assurer que la loi de Moïse ne soit pas transgressée. Et évidemment, ça va contre ce que Moïse a dit, de ne pas rajouter ou soustraire à la loi. En opposé à cette conception qui est strictement légaliste, il y a aussi la conception qui est antinomiste, qui conçoit la loi comme un livre qui était pour les Juifs, mais qui n'a aucune actualité aujourd'hui, qui n'a aucune pertinence pour le croyant dans la Nouvelle Alliance. Et cette position avait été développée par les manichéens, qui concevaient le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau, non pas comme un Dieu, mais comme deux dieux. Et le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de colère, de jugement, et très exigeant par rapport à ses lois. Et le Dieu du Nouveau, en l'occurrence Jésus-Christ, est un Dieu d'amour, de grâce, et un Dieu qui vient ultimement nous libérer du fardeau qui avait été mis sur nous par le Père. Donc, cette conception met vraiment en conflit le Père et le Fils. Alors, aujourd'hui, on n'entend pas vraiment de gens qui vont dire une telle chose, mais on a gardé certains réflexes de cette pensée-là. Est-ce qu'on conçoit vraiment dans nos vies au même niveau l'enseignement du Nouveau que de l'Ancien? Ou est-ce qu'on met une emphase démesurée sur l'enseignement des apôtres au détriment de celui des prophètes? Est-ce qu'on voit dans notre vie une opposition entre la grâce et la loi? Il faut absolument se libérer de cette conception qui a fait des ravages dans l'histoire. Et plusieurs textes de la parole nous enseignent que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu d'amour. Le texte le plus populaire est probablement Jean 3:16, qui nous rappelle que c'est justement à cause de cet amour pour le monde-là que Dieu a envoyé dans le monde son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et d'autres textes aussi qui enseignent l'unité de la parole de Dieu et le fait que toutes les Écritures sont utiles. Et je lis 2 Timothée 3,16, qui est un texte classique, qui dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. À l'époque, les Écritures, il n'y avait pas de canon du Nouveau Testament, c'était l'Ancien. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Et on a dans ces deux positions, la légaliste et celle qui a une conception strictement légaliste et l'autre qui est antinomiste, les deux extrêmes. La première met l'homme, pose l'homme comme l'auteur de son salut, tandis que la seconde propose une grâce qui déresponsabilise complètement et est une grâce qui n'agit pas réellement dans nos vies. Et entre ces deux extrêmes, la position qui s'est imposée dans l'orthodoxie chrétienne, c'est celle des protestants, c'est que la parole de Dieu est annoncée que le nouveau vient du même Dieu trinitaire qui assure la cohérence et l'unité des Écritures. Et par conséquent, toutes les parties de la parole de Dieu ont une actualité qui, bien sûr, est relative, mais réelle. Toutes les Écritures sont utiles. Mais cette position n'est pas sans difficulté si on veut réconcilier toutes les parties des Écritures. Ça semble poser certains problèmes de concevoir la loi toujours actuelle alors que Paul prêche son dépassement. Et le verset 21 de Galates 4 nous éclaire grandement sur cette problématique, donc sur la place de la loi pour le croyant. Il révèle un trait fondamental de la loi, c'est son unité, et son unité qui nous interdit d'interpréter certaines parties au détriment de d'autres parties. Par exemple, il est interdit d'interpréter l'exode du peuple juif sans le comprendre à la lumière de la création de l'homme. Il est interdit de comprendre le don de la loi de Dieu qui nous appelle à être saints comme il est saint, sans le mettre en relation avec l'image de Dieu. Puis il est aussi interdit d'interpréter, par exemple, le sacerdoce lévitique sans le mettre en relation avec le sacerdoce de Melchisédek, qu'on voit dans Genèse. Oui, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui développera cette question-là. Et c'est cette conception du Pentateuque comme une entité indivisible qui faisait défaut chez les opposants de l'Église en Galatie. Il faillait complètement de considérer la loi de Dieu à la lumière de la justice acquise par la foi seule par notre père Abraham. Et on peut voir qu'Abraham a été justifié par la foi seule, puisque lorsqu'il a été justifié en Genèse 15, il était incirconcis, alors que la loi prescrivait de circoncire. Or, la loi n'est pas le moyen de s'enquérir de la justice, mais elle révèle plutôt la justice qui est imputée, mise au compte de celui qui croit. Et aussi, la loi révèle la volonté de Dieu pour son peuple, le standard que Dieu a fixé pour ses élus. Et relisons ensemble le verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi? Et ce verset qui introduit notre section fait ressortir toute la puissance de l'argument de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates. Il rend manifeste le paradoxe dans la pensée des contestateurs qui désirent faire observer la loi prescriptive, donc les règlements, mais qui oublient, dans le fond, son fondement narratif. Donc, ils veulent les lois, mais ils ne veulent pas les histoires qui viennent enrichir cette loi-là dans la Genèse. Et Paul s'apprête à prouver le dépassement de la loi sur son propre témoignage. Et je vous propose une paraphrase du verset pour mieux saisir ce que Paul veut dire. Paul dit essentiellement ceci. Si vous voulez véritablement suivre la loi de Moïse, vous allez reconnaître son dépassement dont elle témoigne d'elle-même et abandonnez les principes élémentaires auxquels vous vous soumettez. Évidemment, c'est une paraphrase qui considère le développement aussi qui suit. Et pour vous donner un exemple de tout ce que ça implique, en droit ou dans la justice, aujourd'hui, lorsqu'un individu est accusé de vol, par exemple, on fait venir des témoins qui peuvent fournir des indices qui permettront de condamner l'individu. Si par contre les témoins sont réfutés le moindrement et qu'aucune preuve permet de confirmer la culpabilité de l'individu, l'homme sera forcément acquitté. Qu'il ait commis ou non, l'homme sera acquitté, il n'y a pas de preuve, et on peut rien dire contre cette personne. Toutefois, si l'homme en question, celui qui est accusé, sans preuve et sans témoin, avoue lui-même sa culpabilité, on ne posera même pas de questions et on procédera immédiatement au jugement. Parce qu'il n'y a rien d'aussi irréfutable que quelqu'un qui témoigne sur sa propre personne. Et c'est ce que Paul va faire ici, il va prouver le dépassement de la loi par la loi. Il va enseigner que la loi n'enseigne pas la justification par la loi. Et que la loi jamais enseigne que l'homme détermine son statut devant Dieu sur la base de ses propres œuvres. Alors, quel récit Paul utilisera-t-il pour affirmer que la loi ne libère pas, mais qu'elle rend davantage esclave? Eh bien, ce sont les versets 22 et 23 qui mentionnent ce récit. C'est celui des deux femmes d'Abraham, Sarah et Agar, et de leurs fils respectifs, Isaac et Ismaël. Et la sélection de ces personnages-là n'est pas fortuite, c'est pas un hasard. Parce que pour Paul, il n'y a rien de plus naturel pour comprendre comment s'obtiennent les promesses qui lui avaient été destinées à lui et à ses descendants, de jeter un coup d'œil sur ses descendants à lui. Donc voici un court rappel des événements que l'on peut lire dans la Genèse et qui nous permettront de mieux comprendre ce que Paul dit en Galates 4. On se rappelle qu'en Genèse 15, Dieu vient à la rencontre d'Abraham pour faire alliance avec lui. Et dans la même occasion, Abraham va exposer à Dieu sa situation, le fait qu'il n'a pas de descendants. Le fait que le seul héritier potentiel chez lui est son esclave Éliezer. Et dans le même souffle, Dieu promettra à Abraham une descendance nombreuse, un fils qui allait être son héritier, qui allait porter l'identité de son père. Immédiatement après cette promesse, en Genèse 15, ou bien Genèse 16, Sarah, pour rencontrer cette promesse qui a été faite par Dieu, proposera à Abraham de prendre sa servante Agar, d'aller vers elle et de lui donner un descendant. Et on se rappelle pourquoi Sarah avait fait cette proposition. C'est que Sarah était stérile, elle était elle-même incapable de porter, elle ne pouvait concevoir d'enfant. D'une part parce qu'elle était stérile, mais aussi parce qu'elle était en âge avancé. Donc, Abraham suit les recommandations de Sarah, va vers Agar, qui est son esclave, il faut bien le mentionner, et elle deviendra enceinte de son fils, son premier fils, Ismaël. Au chapitre suivant, chapitre 15, Dieu réapparaît à Abraham pour réaffirmer son alliance et sa promesse. Toutefois, cette fois-ci, Dieu promet au patriarche un fils qui allait naître de Sarah, contrairement à Agar qui est esclave, Sarah est libre. Et Paul, dans notre contexte, tire des statuts sociaux des deux femmes, des implications d'ordre théologique. Et je vous lis les versets 22 et 23. « Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. » Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Et les implications que Paul tire sont assez surprenantes, De l'opposition entre l'esclavage d'Agar et de la liberté de Sarah, il va déduire le moyen de la conception. Le fait que le fils d'Agar, l'esclave, a été engendré selon la chair, tandis que le fils de Sarah, Isaac, a été engendré selon la promesse. Et c'est surprenant parce que les gens qui étaient en Galatie se réclamaient d'Isaac. Ils disaient, notre père est Abraham, notre Dieu est le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Et pour eux, c'était indiscutable, ils étaient héritiers de la promesse. Et Paul arrive, il dit, non, Isaac n'est pas un fils selon la chair, mais selon la promesse. Et qu'est-ce que ça veut dire, un engendrement selon la chair? Eh bien, c'est un engendrement qui passe par le processus naturel et qui implique un père et une mère biologiques. Et ces particularités que Paul affirme sont très importantes et surprenantes. Comment Paul peut-il affirmer qu'Isaac n'a pas été engendré selon la chair? C'est complètement insensé. Tout homme naît selon le processus normal de l'engendrement selon la chair. À part Jésus-Christ, tout le monde est né comme ça, il n'y a pas d'exception. Et la réponse à cette question se trouve aussi dans le passage de la Genèse. L'apôtre déduit de la stérilité de Sarah que ce n'est pas par le fonctionnement normal de la nature que Sarah a conçu, mais par l'intervention souveraine et unilatérale de Dieu. Dieu vient renverser la situation, car si un enfant doit naître d'une femme stérile et âgée, ce n'est certainement pas par la chair, et Abraham et Sarah le savaient fort bien. Et on peut lire dans les passages que lorsque Dieu fait cette promesse, Sarah rit. Sarah se moque, elle dit, c'est impossible que j'aie un fils, je suis âgée, je suis stérile. Et je vous lis Genèse 17:17 qui montre aussi la réaction d'Abraham, qui, contrairement au chapitre 15, a manqué de foi. Abraham tomba face contre terre, il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, accouchera-t-elle? » C'est de la folie. Qu'un enfant naisse d'une femme âgée et stérile et d'un homme de 100 ans, ça dépasse toutes les possibilités de la science. Et si ça l'arrivait, même les non-croyants crieraient au miracle. La naissance d'Isaac s'est faite par l'intervention divine et souveraine de Dieu, dans Sarah, qui lui seul peut faire vivre là où il y a la mort. Autrement, l'apôtre fait aussi l'usage d'un principe d'interprétation qui était commun à l'époque. Et ce principe-là, on ne l'utilise pas vraiment aujourd'hui. Et il consiste à interpréter des silences significatifs dans le Pentateuque. Bon, le principe s'appelle « Ce qui n'est pas dans la Torah n'existe pas ». Et donc, non seulement l'auteur Paul interprète-t-il la signification d'Isaac à partir de ce qui est écrit sur lui, mais également à partir de ce qui n'est pas écrit à son sujet, qui toutefois aurait dû l'être. Comme si ce qui n'était pas écrit n'avait pas d'existence réelle. Et lorsqu'on fait une relecture des chapitres 16 et 21 de la Genèse, ce sont les chapitres qui rapportent la naissance d'Ismaël et d'Isaac, on constate que pour la conception d'Ismaël, l'implication d'Abraham est mentionnée. Genèse 16, 4, « Il alla vers Agar et elle devint enceinte. » Et pour Isaac, lui qui est le fils de la promesse, le fils unique, Moïse est totalement silencieux par rapport à l'implication d'Abraham et il assimile la cause de sa conception à la promesse de Dieu. Et les deux premiers versets du chapitre 21 comportent des paroles comme celle-ci. « Comme il l'avait dit, et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole. » Et encore au verset 2. « Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé, Et on voit vraiment une emphase sur l'importance de la parole de Dieu pour la conception d'Isaac. Ainsi, ce n'est pas seulement la dysfonction physique de Sarah qui suggère qu'Isaac n'a pas été engendré selon la chair, mais aussi l'indifférence totale du Pentateuque et de Moïse concernant la participation d'Abraham dans le processus d'engendrement. Et quel est l'effet de ces particularités? C'est de laisser toute la place au Dieu créateur qui agit selon sa promesse et par sa parole. Et cet épisode est un exemple de la puissance de Dieu. Dieu qui, par sa puissance, fait vivre là où il y a la mort, qui, par sa parole, appelle à l'existence ce qui n'existe pas, qui souverainement crée toutes choses et qui, ultimement, libère l'homme de son esclavage. Il n'y a que par le Dieu qui a tout généré que nous pouvons être régénérés. Il n'y a que dans celui qui a tout suscité que nous pouvons avoir la certitude que nous allons ressusciter. Il n'y a qu'en fixant les yeux sur le Dieu créateur que nous pouvons trouver notre recréation. Car celui qui en est à l'existence, ce qui n'existe pas, nous a promis dans sa parole qu'il allait tout ramener à l'existence. Et dans notre passage, les associations entre, d'une part, la fertilité d'Agar et son esclavage, et d'autre part, la stérilité de Sarah et sa liberté, servent à dépeindre certaines réalités spirituelles. Agar, cette femme qui a tout en elle-même pour prospérer, pour assurer son avenir, et qui trouve son potentiel dans ses propres capacités charnelles, celle-là est esclave. Alors que la femme qui n'a rien, qui est âgée, stérile, sans postérité, incapable et qui occasionne même la chute du patriarche, lorsqu'elle lui suggère l'adultère pour avoir une descendance, c'est celle-là qui est libre. Pourquoi est-elle libre? Parce que justement, elle n'a rien. Parce que tout ce qu'elle fait dépend de l'action de Dieu. Et c'est là notre liberté, dans notre dépendance à notre Dieu créateur. Et quel paradoxe, hein? Trop souvent, on conçoit la liberté comme une autonomie absolue, l'absence d'obstacles, mais la liberté de la créature est dans sa dépendance au Créateur, et là uniquement. Et le but de cet ordre est que Dieu se glorifie par l'élévation des faibles et des humbles, et qu'il abaisse les orgueilleux, ceux qui semblent être suffisants en eux-mêmes. Et Paul, de cette épisode, ce récit, fera culminer la question de la liberté dans la personne de Jésus-Christ. Il n'y a qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul que se trouve la liberté pour l'homme. Par sa victoire, Christ nous a libérés de notre péché, nous a réconciliés avec Dieu, afin de refonder notre dépendance à lui, notre dépendance morale. Il nous rend capables, par son esprit, de répondre positivement à ses exigences alliantielles, à sa loi, et de prendre plaisir dans sa loi. Et je vous invite à tourner avec moi en Romains 6, 22, qui dépeint justement ce paradoxe de cette liberté qui se trouve dans notre dépendance à Dieu. Mais maintenant, libéré du péché et esclave de Dieu. À noter, libéré du péché et esclave de Dieu. Parce que ceux qui sont esclaves du péché sont libres de Dieu. Vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Et Galates 5, 1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Galates 5, 13, dans le même chapitre. « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. » Cette liberté qui nous est acquise nous permet d'exprimer notre amour pour notre prochain, pour notre corps, et par le fait même de rencontrer les exigences de Dieu, les exigences qui s'étaient fixées dans son alliance et qui nous sont révélées dans sa loi. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et la question n'est pas tant si nous désirons être esclaves ou libres, mais plutôt quel esclavage voulons-nous avoir et quelle liberté voulons-nous? Il n'y a que deux options. Esclave de Dieu et libre du péché, ou esclave du péché et libre de Dieu. Et chacune de ces options ont des répercussions irréversibles pour l'éternité. Donc, rapidement, on va aller avec trois applications. La première application concerne la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain dans son action et sa souveraineté n'est jamais mise en échec par l'homme. Dans l'épisode d'Abraham et Agar, la femme légitime, Sarah, se propose de déterminer elle-même le plan qui allait permettre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Elle donna à Abraham une autre femme. Et cette action consiste à tenter d'accomplir la volonté de Dieu par ce qui est contre sa volonté, le péché. Et elle trouva dans l'adultère le moyen de l'avancement du plan de Dieu, qui a dit « Tu ne commettras pas l'adultère ». Et Sarah, par cette proposition qu'elle fit à Abraham, a montré son incrédulité quant à la promesse de Dieu. Et comme le fait de ne pas se confier dans le Créateur amène toujours à se confier dans la créature, Sarah met sa confiance en Agar, qui démontre tous les signes de santé physique et de prospérité. Et je vous lis un texte de Jérémie 17, verset 5, qui dit ceci. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain. Sarah s'était confiée dans Agar pour l'avancement du plan de Dieu. Qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Sarah n'a pas trouvé la bénédiction lorsqu'elle s'est confiée dans la chair d'Agar. Elle l'a trouvé lorsque Dieu, unilatéralement, a décidé de faire vivre son saint qui est mort. La deuxième application n'est pas séparée de la première. Elle concerne la puissance de Dieu. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que Sarah ait voulu faire le mal en donnant sa servante à Abraham. Ou dans un sens, il y a une part de volonté. L'homme fait volontairement le mal. Mais c'est une maladresse. C'est un péché de maladresse. Dieu avait promis que lui seul allait donner un fils à Abraham. Mais dans le but de participer à l'œuvre de Dieu, Sarah a fini par prendre la place de Dieu. La bénédiction est venue lorsque Sarah ne fit rien d'elle-même. Non pas que l'Évangile invite à la passivité, à la déresponsabilisation, mais plutôt dans l'abandon de notre personne à Dieu, en qui nous retrouvons le mouvement et l'être, qui par sa puissance nous fait revivre. Et la troisième application concerne notre rapport à la loi de Dieu, que j'ai développé dans le premier point. L'apôtre Paul affirme clairement que le Pentateuque, la loi qui a été donnée par Moïse, maintient toute son actualité, sa pertinence. Et certains milieux aujourd'hui ont affirmé que l'Ancien Testament était seulement pour le peuple juif et que le Nouveau était pour les chrétiens. Paul puise systématiquement, et j'oserais même dire majoritairement, dans le livre de Moïse pour enseigner le peuple de Dieu. Et si on s'en prive, et si on rejette le Pentateuque, on se prive de quelque chose de grand. C'est justement par Jésus-Christ que nous pouvons maintenant prendre plaisir dans sa loi. Et la loi trouve toute sa pertinence, lui qui nous a donné son esprit, qui fait vivre en nous cette loi-là qui, pour les autres, avait une odeur de mort. alors que nous puissions vivre toute cette liberté qui nous est offerte dans le Christ Jésus, et que nous puissions prendre plaisir dans la loi de l'Éternel, cette loi qui est appelée par Jacques la loi de la liberté. Que Dieu bénisse sa parole.